Un budget 2025 en baisse de 10% par rapport à l'an dernier. La province Sud l'étudie ce matin et doit faire des choix. De très longs débats, parfois tendus, pour aboutir à une unanimité. Les élus du Congrès ont adopté hier la fameuse DM6 qui permet à la Calédonie de disposer de 27 milliards d'aides de l'État. Le Petit Chaud pourrait reprendre ses rotations demain. Les réparations sont faites. Il reste à recevoir la validation des contrôleurs. En métropole, Emmanuel Macron devrait annoncer le nom du nouveau Premier ministre la nuit prochaine pour nous, de retour de Pologne. Le nouveau pouvoir syrien veut faire oublier l'ère de la famille El-Assad et du parti Baas. Les combattants islamistes s'en sont pris à la tombe d'Hafez El-Assad. Et puis le sport du football, Lille remporte son match de Ligue des Champions 3-2 sur Sturm Graz. Monaco s'est incliné 3-0 à Arsenal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Quels indicateurs économiques actuels permettent de mesurer l'impact de la crise générée par les émeutes et comment ont évolué ces indicateurs depuis le 13 mai ? Ce sera le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour lesquels nous nous retrouverons à la fin de ce journal. Nous verrons de quels moyens disposent les instituts spécialisés pour analyser une crise de cette ampleur. Nous serons pour cela en compagnie d'Élise Desmazures, la directrice de l'ISEE, et de Fabrice Dufresne, le nouveau directeur de l'IOM. Rendez-vous pour les jeudis de l'économie dès la fin de ce journal. Séance budgétaire ce matin à l'Assemblée de la province Sud. Les élus étaient réunis pour examiner le budget primitif de la collectivité. Il s'élève à 51 milliards 100 millions de francs pour 2025, ce qui est une baisse, Nicolas Legrand, de 10% par rapport à l'an dernier.
Oui, un budget primitif toutefois moins catastrophique que ne pouvait laisser penser le débat d'orientation budgétaire, c'était fin octobre. Si la province Sud estime la baisse des recettes de l'ordre de 29% pour l'année prochaine, soit 16,39 milliards de francs, elle intègre une aide de l'État pour 2025 équivalente à ce qui était inscrit au projet de loi de finances 2025 et qui n'a pas pu être adopté avec la censure du gouvernement Barnier, mais qui devrait, selon toute vraisemblance, se retrouver dans le prochain texte du futur gouvernement. Alors sans cette aide qui est anticipée, eh bien la baisse du budget serait de 30% et non pas de 10%. La province Sud ne s'en relèverait pas, selon Sonia Backès. Sans cette aide de l'État pour le budget 2025, Sonia Backès estime que les décisions seront très difficiles à prendre. Elle les avait déjà évoquées lors du débat d'orientation budgétaire. La province serait contrainte de baisser drastiquement les investissements, mais aussi de fermer les CMS ou encore par exemple d'arrêter les bourses. L'aide de l'État est donc primordiale pour éviter ce scénario catastrophe. Une aide donc déjà prévue dans ce budget, elle est anticipée et elle permet de maintenir un niveau d'investissement conséquent. 9 milliards de francs seront ainsi alloués à la relance en 2025, avec notamment l'aménagement du réseau routier pour 1,58 milliard, la reconstruction et l'aménagement de bâtiments pour 2,2 milliards, ou encore pour les collèges 1,24 milliard. Concernant le fonctionnement maintenant, l'enveloppe est de 39,1 milliards, 54% consacrés à l'enseignement, à la santé et au social. Alors les débats ont évidemment porté sur les violences du 13 mai, sur la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent les différentes collectivités. Il n'y a eu aucune question d'arbitrage autour des dépenses prévues l'année prochaine. Ce budget primitif 2025 de la province Sud a été adopté à l'unanimité il y a quelques minutes. Les groupes Calédonie Ensemble, Éveil Océanien et FLN Calédonie Sud se sont toutefois abstenus. Dans l'hémicycle de la province Sud, Nicolas Legrand, RRB.
Par ailleurs, la province Sud a adopté des textes pour faciliter l'instruction des projets de reconstruction et permettre une accélération des chantiers. La province a également prolongé le dispositif de sécurisation des entreprises jusqu'en 2026. 20 millions de francs sont inscrits au BP 2025 pour aider les commerces à se protéger. Notez que cet après-midi, c'est le conseil municipal du Mont-d'Or qui se réunit à 14h sur les 19 textes à l'ordre du jour. Plusieurs portent aussi sur des décisions budgétaires. Les élus doivent notamment étudier la décision modificative numéro 4 du budget principal de la commune. Longue, très longue séance du Congrès hier après-midi pour l'adoption de la DM6, la fameuse délibération modificative numéro 6 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Les élus ont débattu près de 10 heures pour voter l'ensemble des textes inscrits à l'ordre du jour. C'est un peu avant minuit hier soir et après de très longs débats et quelques joutes oratoires que le texte a été voté à l'unanimité des groupes politiques, Elisabeth Noir.
C'est au terme de près de 10 heures de débats parfois un peu tendus que les élus du Congrès ont fini par adopter à l'unanimité cette fameuse DM6 qui intègre les 27 milliards débloqués par l'Assemblée nationale juste avant la chute du gouvernement Barnier. Une somme qui est une bouffée d'oxygène pour la Nouvelle-Calédonie et qui lui permet de boucler l'année 2024. Ces 27 milliards garantissent le financement des provinces et des communes, le fonctionnement du ROAM, la pérennité du régime d'assurance chômage et la stabilité d'Enercal. Mais ce n'était pas forcément gagné. L'examen de la DM6 a commencé par un long débat dans lequel chacun a exprimé son positionnement. dans une déclaration préliminaire, le président du gouvernement, Louis Mapou, a engagé les élus du Congrès à adopter cette DM6.
Les conditions sont ce qu'elles sont, de ce que nous avons pu discuter. Ce qui nous a paru important, c'est à chaque fois de montrer notre volonté de faire des efforts pour en même temps poser les jalons sur l'avenir. C'est ce que représentent pour nous encore les textes qui sont assujettis à cette convention. Donc, les sujets sont posés. Notre souhait, c'est qu'on puisse les traiter dans le temps qui nous est imparti, d'ici Noël ou le 31 décembre, afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de bénéficier de cette dotation et d'assurer aux collectivités les ressources nécessaires.
Dans la discussion générale, certains élus du Congrès ont regretté de ne pas avoir été suffisamment associés aux négociations avec l'État. Ils ont déploré que les aides ne soient pas des subventions et ils ont contesté les modalités de réforme de la TGC et de la CCS. C'est le cas de Calédonie Ensemble. Et Philippe Gomès est monté au créneau pour dénoncer l'attitude de l'État et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il estime que la convention proposée par l'État, c'est réforme contre financement, et il reproche au gouvernement Mapou de s'être laissé imposer des réformes impossibles.
La manière dont on se comporte maintenant, là, à ce moment-là de l'histoire, avec les conditions qui sont posées, vont poser le cadre de la manière dont nous allons devoir subir demain. Nous acceptons de subir aujourd'hui, dans les conditions posées par l'État, ce qui a été annoncé dans la Convention. À partir de ce moment-là, attendez-vous demain à ce que l'État ne fasse pas preuve de plus de bienveillance qu'il n'en a fait preuve à cette occasion.
Calédonie Ensemble prête à un bras de fer avec l'État, une attitude à laquelle a répondu Sonia Baquès pour les loyalistes, en rappelant le précédent du pacte nickel.
Si cette DM6 et la convention qui va avec ne sont pas adoptées, ce sont à peu près 30 collectivités qui seront mises sous tutelle de l'État. Certains disent qu'ils ont les moyens du bras de fer avec l'État, du bras de fer avec Bercy. Peut-être que certains sont plus forts que d'autres et qu'ils arrivent à faire des bras de fer. On l'a vu que sur le pacte nickel, ça n'a pas beaucoup abouti. Moi, je ne crois pas dans le bras de fer avec l'État, surtout en l'absence de politique nationale. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement. Donc le bras de fer, on arrive à le faire quand on a un politique qui se dit « bah non, on ne va pas laisser crever les Calédoniens ». Mais Bercy, vous savez quoi ? Il s'en fiche. Il s'en fiche. Donc si les Calédoniens ne sont pas capables de voter des réformes, eh ben ils diront « ben tant pis, c'est tout ». Et on n'aura pas le versement des 27 milliards et on sera en cessation de paiement.
Le ton est souvent monté pendant ce débat préliminaire et le président du gouvernement a été régulièrement sur la sellette. Louis Mapou qui a tenu à ironiser sur l'attitude des opposants à la DM6.
Mais je le répète, si vous pensez qu'on peut jouer au loto sur cette question, il faut le faire. Nous, pendant nos responsabilités, on en a déjà beaucoup parlé entre nous, ne vous inquiétez pas.
Un climat souvent tendu dans l'hémicycle qui a traduit un réel conflit entre le gouvernement et le Congrès.
Et après ce débat, les élus ont commencé l'examen des amendements dont beaucoup visaient à décaler les engagements pris par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une séance suivie pour Radio Rythme Bleu par Lionel Sabot.
Et parmi ces amendements, celui déposé par Calédonie Ensemble est âprement défendu par Philippe Dunoyer. Un amendement qui prévoyait notamment que le Congrès s'engage à adopter une réforme prévoyant l'introduction d'un jour de carence dans la fonction publique au plus tard au 31 décembre 2024 et que le Congrès s'engage également à adopter au cours du premier semestre 2025 une réforme de la TGC et une réforme afin de réduire le déficit du système de santé d'ici la fin 2027 et non d'ici la fin de l'année. Écoutez Philippe Dunoyer.
On s'est retrouvé dans une situation qui ressemble à une mise au pied du mur du Congrès par le gouvernement. La question n'est pas de savoir si on n'a pas besoin des 27 milliards. On a tous validé ces 27 milliards. Le sujet, et malheureusement, il n'a pas été compris et validé ni par le gouvernement ni par les autres collègues, c'est que les conditions qui sont mises à ces 27 milliards, c'est en résumé de nous obliger à voter dans 15 jours, deux augmentations d'impôts d'au moins 6,5 milliards pour la TGC et de 4,5 milliards de CC, c'est-à-dire 11 milliards. Et il me semble que c'est tout sauf ce dont a besoin la Nouvelle-Calédonie, ce dont ont besoin les Calédoniens, ce dont ont besoin les entreprises.
Après plus d'1h30 de débat, cet amendement a finalement été rejeté, comme la plupart des autres amendements déposés lors de cette séance marathon. Au final, c'est un peu avant minuit que la délibération modificative numéro 6 a été votée par les élus. Un vote à l'unanimité des groupes politiques du Congrès. Satisfaction pour le président du gouvernement, Louis Mapou.
C'est un signal fort qui est envoyé à la population. C'est important par les temps qui courent. C'est un signal fort vis-à-vis du gouvernement central, de l'État, de montrer que la Nouvelle-Calédonie a resserré les rangs pour aller de l'avant.
c'est aussi important parce que nous allons pouvoir travailler dans un cadre qui va nous permettre, à partir de cette décision que nous avons prise, de travailler sur les conditions qui sont posées par le projet de convention, des conditions qui, pour moi, sont largement surmontables.
Louis Mapou, qui a toutefois été un peu surpris des prises de position des uns et des autres lors des débats.
Parfois, j'ai trouvé que certains propos dépassaient les limites des enjeux que nous avions à discuter. Il nous était reproché de ne pas suffisamment venir échanger avec le Congrès. Je me suis dit à un moment que c'est une séance aussi qui a permis peut-être de crever les abcès. Et de partir, c'est d'un bon pied.
La DM6 a donc été votée par l'ensemble des élus. Écoutez Philippe Blaise pour l'intergroupe Les Loyalistes.
C'est un soulagement après des débats très très longs pour discuter des conditions de la convention par laquelle l'agence France Trésor donne de l'argent à la Nouvelle-Calédonie. Cette bouffée d'oxygène, elle était essentielle. Nous sommes convalescents, nous avons besoin de soutien. C'est pas le moment d'augmenter de façon déraisonnable la fiscalité. Je crois que l'État a compris qu'il faut laisser du temps à la Calédonie, mais il veut qu'on ait des actes forts avant le 24 décembre, de façon à pouvoir décaisser ces fonds, et je crois qu'on a fini par trouver un consensus là-dessus.
Satisfaction également pour Virginie Rufneck, chef du groupe Rassemblement, mais il va falloir rester vigilant pour la suite, et notamment lorsqu'il s'agira de discuter d'ici quelques jours de la réforme de la TGC.
Nous, notre groupe, n'est absolument pas favorable à augmenter la pression fiscale sur les Calédoniens dans la période de crise qu'ils vivent aujourd'hui et dans des difficultés très importantes qu'ils ont à boucler leur fin de mois. Donc nous allons travailler sur tous ces sujets de façon effectivement à bénéficier de cette aide sans laquelle nous ne pourrions finir l'année, mais dans le même temps, ne pas imposer aux Calédoniens des conditions qui les feraient perdre ce que l'on gagne par le biais de l'aide et perdre dans le tissu économique, finalement, des acteurs qui décideraient de mettre clé sous la porte et qui ne pourraient pas continuer du fait d'augmentation des taxes et notamment de la TGC.
Cette décision modificative numéro 6 du budget principal propre de la Nouvelle-Calédonie n'était pas le seul texte à l'ordre du jour de la séance du Congrès. Les élus ont également adopté hier, à l'unanimité et sans aucun débat, les décisions modificatives numéro 1 du budget annexe de reversement et du budget annexe de répartition. Les élus ont également adopté une délibération relative à l'affectation de la TGC et adopté diverses dispositions financières et budgétaires dans l'attente du vote du budget primitif 2025.
Et en toute fin de séance, l'aide au transport aérien a également révélé la fracture entre le Congrès et le gouvernement. Brieuc-Frogier, élu des loyalistes, a tenu à attirer l'attention du président du gouvernement sur la volonté d'Air Calédonie International d'acheter 2 A350 neufs.
Je découvre que le président du conseil d'administration de la DANC part à Paris pour négocier l'achat des avions. Donc là, on vient de pleurer misère pour récupérer pour la Calédonie entière 27 milliards et on maintient un voyage pour aller négocier les avions pour un montant de 46,5 milliards. Avec un acompte prévu en 2024 de 5 milliards. Avec un acompte prévu en 2025 de 4 milliards, avec un acompte prévu en 2026 de 17 milliards 8. Quand j'ai repris ces chiffres-là, je me suis dit que c'était une blague. On est au courant de rien. On est mis devant le fait accompli sur quelque chose qui dépasse l'entendement.
La Nouvelle-Calédonie a-t-elle les moyens de faire ça ? A interrogé Brieuc-Frogier. La réponse du président du gouvernement.
Dans le contexte actuel, non. Il n'en demeure pas moins que nous devons garder la perspective de poursuivre le développement de cette société et c'est ce qui est fait avec cette ligne indirecte Nouméa-Bangkok-Paris. Mais il est évident que compte tenu de cette situation financière et de la situation financière de la société, ce que vous indiquez devra être révisé.
Les Brieuc-Frogier a alors directement mis en cause l'attitude de Gilbert Thuénon, le membre du gouvernement en charge des transports.
Aujourd'hui, on a perdu 17, 18, 20% des recettes fiscales. On ne sait même pas comment on va payer les salaires. On ne sait même pas comment on va donner des subventions aux associations. Et on nous fait croire qu'on va aller acheter des avions. 46,5 milliards. Monsieur le Président, s'il vous plaît, essayez de raisonner votre membre du gouvernement en charge des transports. Il vit dans un autre monde. Il ne vit pas dans le monde dans lequel on est.
Voilà donc pour ces échanges qui ont émaillé hier la longue journée du Congrès.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Approuvez-vous la DM6 adoptée par les élus du Congrès? Si vous approuvez cette décision modificative, vous tapez 1. Si vous ne l'approuvez pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à la question d'hier, 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS ne pensent pas que la nouvelle ligne Nouméa-Paris via Bangkok, entièrement opérée par Air Calin, puisse permettre le redressement et le développement de la compagnie aérienne. Ils sont 17% à être d'un avis contraire. À ce propos, le vol inaugural Nouméa-Paris via Bangkok 100% réalisé par Air Calin s'est donc posé cette nuit pour nous à Roissy. Le terminal C de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle était pavoisé aux couleurs de la Nouvelle-Calédonie pour une cérémonie d'accueil qui était organisée sur place. C'était surtout un vol historique, a expliqué le directeur général d'Air Calin, Georges Sélefen, présent à bord de ce vol inaugural.
C'est un événement exceptionnel, un événement qui marque un tournant pour la compagnie, un tournant historique, puisqu'aujourd'hui, en moins de 24 heures, on a relié Nouméa Paris avec notre escale intermédiaire à Bangkok de 2 heures. Le vol s'est très bien passé, avec beaucoup de satisfaction. Et on a pu expérimenter cette nouvelle route qui est exceptionnelle. C'est une première étape, ça a été une étape un peu bousculée puisque nous avions prévu d'ouvrir ce projet que en fin 2026. Là, avec la situation en Calédonie, on n'a pas eu le choix que de le faire en moins de 6 mois. Et je salue d'ailleurs tous celles et ceux qui ont pu travailler pour que ce projet puisse devenir une réalité aujourd'hui. C'est même une manière pour nous de continuer à survivre à la situation, puisqu'on va chercher le revenu complémentaire qui nous manque face à la baisse de trafic de moitié qu'on subit aujourd'hui.
Et le vol inaugural retour entre Paris et Nouméa via Bangkok a lui décollé de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à 6h30 ce matin, heure de Nouméa. L'actualité politique et après l'Union calédonienne, c'est le PALICA qui réagit à l'annonce d'un calendrier de reprise des discussions sur l'avenir. Une annonce faite à l'issue de la réunion de travail qui s'est tenue le 6 décembre à Paris avec la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et la délégation dite transpartisane, Elisabeth.
Dans un communiqué, le PALICA s'étonne de l'annonce d'un séquençage des discussions alors que l'État dans son ensemble, le président de la République, le gouvernement et les présidents des deux assemblées n'a aucunement indiqué quelles sont ses intentions dans l'approche des négociations. Pour le PALICA, il faut que l'État annonce l'ouverture des négociations sur l'avenir, à moins, écrit-il, que les présidents Larcher et Braun-Pivet soient officiellement les négociateurs de l'État. Le PALICA relève également que c'est sur les groupes politiques du Congrès que s'appuierait le dialogue politique, un format qui pour lui mérite une attention particulière au vu des difficultés qui ont traversé la Calédonie ces dernières années et depuis que le comité des signataires a été abandonné. La légitimité des négociateurs est une véritable question, écrit-il dans ce communiqué. Le PALICA s'interroge aussi sur la référence aux deux documents issus des travaux menés jusqu'au 13 mai 2024. Sont-ils d'actualité et ont-ils fait l'objet d'une validation politique de la part des partis politiques concernés pour que l'on en fasse état publiquement, demande ainsi le PALICA. S'agissant enfin du soutien financier de l'État, le parti exprime sa crainte que les propos tenus par les membres de la mission à l'égard du gouvernement collégial et les annonces contenues dans le communiqué des présidents des deux assemblées ne décrédibilisent l'action du gouvernement collégial et sèment le trouble dans la conduite, le format et le contenu des discussions sur l'avenir institutionnel. Le PALICA qui en appelle par conséquent à la vigilance et qui dénonce ce qui s'apparente, et je cite, à des stratégies électoralistes et populistes visant sous couvert de contact avec l'État à imposer une nouvelle configuration des instances de discussion sur l'avenir institutionnel, tant sur la forme que sur le fond.
Et puis un mot, aujourd'hui c'est un anniversaire, ce 12 décembre. Il y a 3 ans, jour pour jour, le 12 décembre 2021, se tenait le 3e référendum de sortie de l'accord de Nouméa. On peut rappeler que le non à l'indépendance l'a emporté avec 96,5% des suffrages exprimés lors d'une consultation marquée par la non-participation des indépendantistes. Il est 11h50, une pause dans ce journal, la première, avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie ?
Ça commence par... Après ça fait... Ensuite ça fait... Et là...
Tu connais ?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio, aux 4 rue de Sébastopol, vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie et comment se passe la reprise des activités sur l'usine du Sud. Après 6 mois d'arrêt, Prony Resources avait annoncé une remobilisation complète des équipes le lundi 18 novembre. Lundi dernier, c'est le redémarrage des activités industrielles et minières qui était annoncé. Après 7 mois de pause, cette reprise se fait progressivement, comme l'expliquent ces deux opérateurs qui travaillent sur site.
Pour le moment, l'usine elle est toujours à l'arrêt. Malheureusement, on a rencontré quelques problèmes techniques qui peuvent être résolus, mais l'usine n'a toujours pas redémarré. C'est en cours et espérons que ça réussisse. On a beau essayer de les nettoyer, de les arranger, de les faire tourner de temps en temps, mais quand il faut reprendre une activité à long terme, il y a quelques soucis pour ça, oui.
Non, là, la production n'a pas encore repris. Du coup, la reprise, elle est doucement, on reprend tout doucement. Ça démarre de la mine. Tous les chargements de la mine, ensuite ça descend sur l'usine. Et là, la mine, eux, ils sont prêts, ils nous attendent juste nous en bas à l'usine. Il y a plusieurs secteurs dans l'usine et on est obligé d'attendre que d'autres secteurs démarrent avant pour que la fin de la chaîne quoi, des secteurs, ben, ils puissent faire de la production. Dans l'objectif, normalement, c'était à partir du quart prochain, du 15 décembre, normalement, on doit démarrer les premiers secteurs et tout doucement les autres secteurs qui démarrent.
Un redémarrage vital mais qui ne garantit pas la pérennité à long terme. Prony Resources espère retrouver la performance du premier trimestre 2024, c'est-à-dire une production de 3500 tonnes par mois. Prenons des nouvelles du Betticcio. Les réparations sont maintenant terminées. Le bateau est à quai depuis le 18 novembre après des problèmes sur le moteur et le groupe électrogène d'urgence. Les équipes ont donc pu intervenir et n'attendent plus que la validation des contrôleurs. Stéphanie Leclerc est responsable commerciale et communication au sein de la Sudil. Comme elle explique, la compagnie reste positive.
Effectivement, le Betticcio est à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Nous attendons à présent de faire des essais en mer ce jour pour ensuite avoir des autorisations techniques et maritimes officielles qui nous garantit la reprise du Betticcio et de ses rotations. Maintenant, on attend la fin de la journée pour confirmer officiellement la reprise de demain. On est quand même assez confiant, on espère. Après, on est à l'abri de rien, évidemment. D'après les discussions qu'on a eues avec les équipes techniques, il semblerait que le Betticcio va reprendre la mer.
Voilà, la réponse est attendue entre 17h et 18h cet après-midi. Les clients seront bien sûr prévenus par mail et SMS. La prochaine rotation est prévue demain pour les îles Loyauté, sous attente de cette validation. Les rotations qui suivent sont également maintenues pour le moment. Et puis des modifications aussi sur les horaires des navettes maritimes entre Nouméa et le Mont-d'Or Sud. Des changements qui étaient attendus et qui seront effectifs dès ce week-end, Léo Fichou.
Oui, la province sud s'adapte à la période de vacances qui commence et à l'évolution de la fréquentation dès ce samedi. Les taxibots feront les rotations entre Moselle et le Vallon d'Or de 7h à 17h avec un départ toutes les heures de 6h30 à 16h30. Du côté du Vallon d'Or et de Boulary. Attention, dimanche, les navettes ne circuleront pas. Et puis à partir de lundi, c'est le Maridé qui effectuera un aller-retour à 5h entre Moselle et le Vallon d'Or. Puis, il faudra attendre 15h pour que les taxibots circulent jusqu'à 17h. Et puis, le Coral Palme effectuera une seule rotation en fin de journée à 17h30. En ce qui concerne la liaison entre le Vallon d'Or et Boulary, il y aura seulement 2 taxibots le matin entre 6h10 et 7h30. Puis, l'après-midi entre 15h20 et 17h. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Province Sud dans l'onglet Navette Maritime.
Les résultats du bac sont tombés hier. 80,9% des élèves de terminale ont eu leur bac. C'est 13% de plus que l'an passé. Sur les 3200 candidats, la Nouvelle-Calédonie compte donc 2595 nouveaux bacheliers. Et parmi eux, 1596 ont obtenu une mention, c'est-à-dire 61,5% des admis. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance, avec une année scolaire fortement perturbée. Les notes se sont basées uniquement sur le contrôle continu. Didier Vindatich était notre invité ce matin et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a confirmé que tout le monde avait dû s'adapter pour qu'au final, les résultats soient satisfaisants.
Je crois qu'on ne peut quand même que se réjouir de ces bons résultats. Et vous avez entendu comme moi, les élèves se réjouir
de leurs
résultats.
Ils sont contents de l'avoir, oui,
bien sûr. Et de poursuivre ainsi leur scolarité. Il ne faut pas comparer les taux de cette année à ceux de l'année dernière, puisque l'année était si particulière. Mais quand on compare l'année Covid, par exemple, qui est une année pendant laquelle nous avions recouru également au contrôle continu en 2021, et aujourd'hui, nous avons des taux en moyenne qui sont inférieurs aux taux de réussite de l'année 2021. Et on a aussi des taux qui sont, je dirais, parfois inférieurs, mais sinon voisins de ceux de la session 2024 en métropole. Donc les taux auxquels nous parvenons aujourd'hui sont des taux effectivement satisfaisants, mais en même temps qui ne sont pas tout à fait anormaux.
Et après avoir détaillé le résultat de ce bac dans l'ensemble des filières, nous nous sommes projetés avec le vice-recteur sur la rentrée prochaine et notamment sur les établissements qui ne rouvriront pas, le collège de Rivière-Salée et le lycée Petro à Titi.
Bon, évidemment, les conditions de la rentrée désormais sont quasiment actées, hein, et donc nous avons eu à gérer effectivement les deux grosses fermetures et donc pour repositionner les élèves et les enseignants. Bon, initialement, nous avions fait des structures sur des constats démographiques établis avant la crise, que nous avions entériné des mouvements en octobre. Mais ce que nous constatons, c'est qu'à cette époque-ci, à l'époque où les familles doivent se décider
et inscrire leurs enfants,
ça continue de bouger un peu. Et ça, c'est un peu notre difficulté. Par exemple, hier, nous avons reçu une délégation de Canala et nous avons rouvert une classe de 6e à Canala.
Et le vice-rectorat a également constaté de nombreux départs d'élèves du Grand Nouméa vers la Brousse et les îles. Écoutez Didier Vindatich.
C'est qu'on a un flux de la Grande Terre vers les îles et qu'il n'y a pas eu de reflux. Ça veut donc dire que beaucoup d'élèves, et je crois que savoir c'est vrai aussi dans le primaire, mais dans le secondaire, il y a beaucoup d'élèves qui sont repartis dans les îles et qui sont restés. La preuve, c'est que j'ai ouvert deux classes de seconde au lycée des îles. Et possiblement, il y aurait eu un flux vers la côte est et des familles qui ont décidé de sédentariser leurs enfants sur la côte est, la preuve de Canala, la preuve de Wailou, pour des raisons diverses qu'on pourra élucider ces prochains jours.
Oui, là, il faut attendre évidemment que les inscriptions soient tout à fait complètes.
On attendra pour ça la rentrée.
La rentrée,
pour
évidemment.
Didier Vindatich, le vice-recteur, qui était donc notre invité ce matin à 7h30. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site internet. Le recul de l'offre de soins en province Nord inquiète. Les membres du collectif SOS du Nord Santé en Péril étaient mobilisés hier devant les hôpitaux de Coumac, Conné et Poindimier. Ils voulaient faire entendre leur voix, Léana Colombo.
Oui, c'est une préoccupation majeure pour l'ensemble du territoire, mais encore plus en province Nord. Le manque de personnel inquiète, effectivement. Dans certaines communes, la situation est même critique. À Coumac, par exemple, le service des urgences n'est ouvert qu'en journée, de 8h à 16h, tout comme les consultations médicales. Une situation qui ne s'arrange pas, selon le maire de Coumac, Wilfried Weiss.
Aujourd'hui, le problème, c'est un problème d'infirmiers. On a deux médecins en poste, mais on a un manque d'infirmiers parce que des infirmiers de Coumac sont transférés sur le pôle sanitaire du Nord à Conné pour pouvoir garder certains lits ouverts sur Conné. Nous n'avons plus d'hospitalisation de jour, mais rien du tout. C'est-à-dire qu'en réalité, l'hôpital de Coumac est revenu comme une CMS. Les médecins font des consultations la journée, quelques soins de jour en journée, mais après, à partir de 16h, il n'y a plus rien. Si quelqu'un a un AVC à 16h30 à Coumac ou à Poum ou à Ouégoua ou à Calagomène, c'est terminé.
Wilfried Weiss a reçu hier le collectif pour tenter de trouver des solutions. Pour le maire de Coumac, il faut revoir la répartition des compétences entre les institutions de Nouvelle-Calédonie. Ce dossier urgent devrait être porté au plus haut, soit par le gouvernement calédonien.
La province Nord est compétente concernant les CMS, mais de l'autre côté, on a le CHM, l'hôpital de Coumac et l'hôpital de Poindimier, qui sont des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Et il n'y a aucune passerelle entre ces deux structures, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour avoir une politique commune. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le schéma de soins et de santé en Nouvelle-Calédonie, de façon qu'il n'y ait plus qu'une seule structure qui serve à l'ensemble des établissements hospitaliers, parce que en mutualisant, on va faire des économies d'échelle. Même quand une personne veut venir s'installer, c'est le parcours du combattant. Peut-être qu'en ayant une gestion commune, on pourrait avoir des médecins privés ou des infirmiers privés qui pourraient travailler à mi-temps ou à quart-temps, etc., dans les hôpitaux ou dans les CMS.
Un groupe de travail a été créé à l'issue de cette rencontre entre la mairie de Coumac et le collectif. L'objectif sera ensuite de porter au gouvernement les revendications pour pouvoir organiser une réunion à Coumac avec les maires de la province Nord, le président de la province, les coutumiers et des membres du gouvernement.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Un mot de notre opération au cœur de Noël, un mot simplement, parce que nous sommes un peu en retard aujourd'hui. En tout cas, c'est l'occasion une fois de plus de vous remercier pour votre mobilisation qui continue. Et on compte sur vous encore pour porter des cadeaux à la radio pour ces enfants de 0 à 16 ans qui pourront profiter de votre générosité pour Noël. Merci de votre mobilisation et continuez à venir nous voir pour déposer vos cadeaux tous les jours de 7h30 à 19h. Cette opération évidemment se poursuit. Il est midi 1. Dans un instant, on voit ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB 11h 13h Infomag Jean-François Bodin.
C'est la fin d'année et Mobile Nouvelle-Calédonie vous réserve une surprise exceptionnelle. Jusqu'au 15 décembre, Mobile vous offre l'opportunité de remporter un iPhone 16 chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, 4 iPhone 16 à gagner avec un tirage au sort tous les lundis. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Mobile Nouvelle-Calédonie. Abonnez-vous à notre page et jouez dès maintenant. Ne manquez pas votre chance. Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Mobile Energy lives here.
Envie d'une expérience gourmande unique? Découvrez le Café Del Paps, votre brasserie bistronomique au cœur de la presqu'île de Nouville. Des plats raffinés, des produits frais et une ambiance conviviale qui vous régaleront à chaque visite. Réservez dès maintenant au 24 69 99. Info Facebook Café Del Paps.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Emmanuel Macron devrait annoncer le nom du nouveau Premier ministre la nuit prochaine pour nous. Ce sera juste avant ou juste après le déplacement express qu'il doit effectuer en Pologne. Lors de sa rencontre avec les groupes politiques, Emmanuel Macron s'était en effet donné 48 heures pour annoncer le nom du nouveau locataire de Matignon. Pourtant, la situation politique reste floue si l'on en croit les propos que le chef de l'État a tenus lors du Conseil des ministres. Propos rapportés par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Le président de la République a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas actuellement de socle plus large que celui qui est en place aujourd'hui et qu'il restait donc désormais à savoir si certains étaient prêts à élargir ce socle ou à s'accorder sur un principe de non-censure.
Lors de ce Conseil des ministres, sans doute le dernier de l'équipe Barnier, a été présentée la loi spéciale qui sera débattue dès lundi prochain au Parlement et qui doit permettre de pallier provisoirement l'absence de budget. Tout le monde scrute aujourd'hui les conséquences politiques de la motion de censure adoptée contre le gouvernement Barnier. Des conséquences qui ne devraient pas être favorables au nouveau Front populaire menacé d'implosion. Les socialistes prennent en effet de plus en plus leur distance avec la France insoumise. En revanche, le Rassemblement national ne semble pas avoir effrayé les électeurs. Au contraire, Marine Le Pen semble même confortée dans l'opinion publique. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Conforté par les sondages, malgré les avertissements répétés du bloc central sur le scénario catastrophe qu'engendrerait une censure, si l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche, Marine Le Pen obtiendrait en effet 38% des voix au premier tour si Gabriel Attal était candidat, 36% si elle affrontait Édouard Philippe. De quoi pleinement assumer le vote de la censure la semaine dernière. Marine Le Pen était l'invitée de France 2 ce matin.
Je pense que les responsables politiques et les commentateurs devraient être prudents dans leurs analyses. Un sondage vient contredire l'intégralité des commentaires que j'ai pu entendre depuis une semaine. Qu'ils ne prennent pas leurs rêves pour la réalité.
Alors ce qui ressort de ce sondage, c'est la solidité du vote en faveur du Rassemblement national, puisque si Jordan Bardella était candidat, il arriverait également en tête au premier tour face à Édouard Philippe avec 34% des voix. Dans son ensemble, le bloc de droite atteindrait entre 47 et 53% des intentions de vote selon les hypothèses, et ce sans compter les voix d'Édouard Philippe. Laurent Wauquiez oscille entre 6 et 8%. Jean-Luc Mélenchon plafonne lui à 12%.
En bref, à l'étranger, l'incertitude toujours en Syrie depuis que le groupe islamiste HTS a pris le pouvoir et chasser Bachar el-Assad. Le parti Baas a annoncé qu'il suspendait toutes ses activités C'est le parti qui avait porté par le biais de coups d'État Hafez el-Assad au pouvoir. Cet ancien militaire avait dirigé le pays du main de fer pendant 30 ans avant d'installer son fils. Les nouveaux hommes forts du pouvoir s'attachent à tourner la page de la famille el-Assad et du parti Baas. Des combattants de HTS en sont même pris à la tombe d'Hafez el-Assad. Pendant ce temps, le nouveau pouvoir, et notamment le Premier ministre Mohamed al-Bashir, a promis de respecter toutes les communautés. Il appelle également les 6 millions de réfugiés syriens qui ont quitté leur pays depuis le début de la guerre civile à rentrer chez eux pour reconstruire le pays. Midi 5, la dernière pause. Dans un instant de sport, ce sera ensuite les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile. Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Un an de salaire à gagner avec Nestlé.
Jusqu'au 31 décembre prochain, tente de remporter un an de salaire en bon d'achat à dépenser dans tes enseignes préférées.
Pour jouer, achète deux produits Nestlé, écris ton nom, prénom et numéro de téléphone derrière ton ticket de caisse et glisse-le dans l'urne en magasin.
Participe en ligne sur jeunestlé.nc/salaire. Règlement du jeu disponible chez Nestlé et chez Maître Citrita.
Jeu gratuit sans obligation d'achat.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on va commencer cette page au sport avec le football et la fin de la 6e journée de la Ligue des Champions, Léo Fichou.
Deux clubs français étaient sur les pelouses ce matin, Lille et Monaco. Dans une rencontre à rebondissement, les Lillois se sont sortis du piège Sturm Graz. Victoire 3-2 des Dogs qui sont désormais qualifiés au moins pour les barrages de la compétition. Tout comme Brest, vainqueur hier du PSV Eindhoven, 1-0. De son côté, Monaco n'a rien pu faire en Angleterre contre Arsenal. Les Gunners ont déroulé 3-0. C'est la deuxième défaite d'affilée des Monégasques en Ligue des Champions. Je rappelle qu'hier, le PSG a battu Salzbourg 3-0, mais reste pour le moment éliminé alors qu'il ne reste plus que deux journées.
Natation et Maxime Grousset qualifiés pour la finale du 100 mètres nage libre au championnat du monde en petit bassin.
C'est à Budapest que ça se passe. La nuit dernière, le Calédonien n'a pas tremblé. Il a d'abord réalisé le 3e meilleur temps des séries avant de réaliser le 4e meilleur temps des demi-finales en 45 secondes 59. Ce n'est pas très loin de son record personnel. Il s'est donc hissé en finale, finale qui aura lieu la nuit prochaine pour nous à 3h40.
La voile avec le Vendée Globe et Charlie Dalin solidement installé en tête de la course.
À bord de Massif Santé Prévoyance, le favori de cette édition 2024 possède des écarts plutôt stables sur ses poursuivants. Il devance Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil de 340 000 nautiques et Johan Richomme à bord de Paprec Arkea de 416 000. Les 9 premiers skippers ont déjà passé le cap Lewin au sud de l'Australie et se rapprochent doucement mais sûrement de la Tasmanie.
Et puis en handball, l'équipe de France connaît son adversaire pour la demi-finale de l'Euro féminin. Les Bleus affronteront le Danemark, ce sera samedi matin à 6h30 pour nous. Dans l'autre demi-finale, la Hongrie, hôte de la compétition, sera opposée à la Norvège, qui est championne d'Europe en titre. Il est midi et 8 minutes.